Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 16 mars, un vaccin entre parenthèses et un nouveau variant. Le sérum d'AstraZeneca est donc suspendu le temps que l'Agence européenne du médicament donne un nouvel avis. Les gens ne sont pas en danger, affirme ce matin Olivier Véran, le ministre de la Santé. Un nouveau variant breton s'est installé du côté de Lannion. Il échappe au dépistage. Nous ferons le point avec le professeur Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique. Dans RTL Midi aussi, une nouvelle carte à puce. La carte d'identité va définitivement entrer dans le 21e siècle. De la taille d'une carte bancaire, elle contiendra des données biométrique. Trois mois jour pour jour après la disparition d'Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines près d'Albi, nous ferons le point sur l'enquête. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera dans les Vosges où un jardinier tombé par hasard sur la plaque d'un soldat a mené l'enquête pour retrouver sa famille. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Tout en grisaille.
Et oui, c'est bien chargé sur la majeure partie du pays et humide avec de faibles pluies sur un large quart nord-est, de la neige même sur les massifs de l'est à basse altitude des 500 mètres, 1200 mètres sur le massif central. Attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord et puis sur la façade ouest. Là, c'est un temps sec, mais bien nuageux. Il n'y a qu'entre la Méditerranée et la Corse où le soleil sera bien généreux au prix d'un vent fort. Tout ça sous des températures stationnaires comprises généralement entre 8 et 15 degrés jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. La France a-t-elle eu raison de suspendre par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca? Vous êtes 51% à dire oui, à 36% de non. On attend vos arguments. 32-10. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle. La défiance risque-t-elle d'augmenter avec cette décision? Est-ce un coup d'arrêt de la campagne de vaccination? On parlera évidemment aussi du reconfinement possible. Ce sera un des grands chapitres des auditeurs. La chanson Chaud Cacao d'Annie Cordy est-elle raciste? La polémique enfle en Belgique. La chanteuse Annie Cordy a été choisie pour donner son nom à un tunnel situé à Bruxelles. Mais effectivement, certains trouvent que cette chanson est raciste. Donc nous pourrons continuer également à parler des Césars, puisque la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a dit ce qu'elle pensait ce matin de la cérémonie.
Et vous l'entendrez dans ce journal.
Bien sûr, je l'espère.
RTL Midi.
Et pour commencer, prenons un peu d'altitude et mettons-nous la tête dans les étoiles. L'astronaute français Thomas Pesquet sera l'un des nouveaux locataires de la Station Spatiale Internationale à partir du 22 avril. Et pour la première fois, il ne partira pas en Soyouz, mais avec la fusée SpaceX d'Elon Musk. Nouveau taxi spatial, Sophie Jousselin.
Et oui, adieu Baïkonour et ses légendaires Soyouz. Dans quelques semaines, Thomas quittera la Terre depuis le sol américain, depuis Cap Canaveral en Floride. Il sera le premier Européen à voyager à bord d'un Crew Dragon, la capsule ultra-moderne de SpaceX. Et dans la deuxième partie du séjour, c'est-à-dire pendant les trois derniers mois, eh bien Thomas sera le commandant de cette mission Alpha.
C'est comme un bateau en fait, il y a un seul maître à bord après Dieu. Par exemple, si on veut faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, toutes les procédures d'urgence elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. Évidemment, tout le monde est compétent, il n'y a pas besoin de dire aux gens quoi faire dans un équipage d'astronautes, mais il y a quand même cette dernière couche, on va dire, de prise de décision qui revient au commandant de la station.
Quatre sorties extravéhiculaires sont prévues pendant les six mois de la mission. Lors de son premier séjour, Thomas en avait fait deux. Alors cette fois, on ne sait pas encore s'il quittera l'ISS, mais une des sorties semble faite pour lui.
Moi, je suis un petit peu électricien de la station spatiale parce que la dernière fois, mes deux sorties, c'était pour changer le système de batterie. Et là, maintenant, on se rend compte que les panneaux solaires se dégradent un petit peu, que la station grossit, qu'on a besoin d'un petit peu plus d'électricité. Donc, on va aller installer des nouveaux panneaux solaires qui se déroulent. C'est un système absolument fantastique. On installe des énormes tubes qui font 350 kilos et qui vont se dérouler.
Au programme également de Thomas Pesquet pendant cette mission, des expériences scientifiques, du sport, 2 à 3 heures par jour et des photos, mais un peu moins que la dernière fois, a expliqué ce matin l'astronaute.
Merci Sophie. C'est au nom du principe de précaution que le vaccin AstraZeneca a donc été suspendu en France comme dans une douzaine de pays européens, le temps que l'Agence européenne du médicament examine la trentaine de cas de thrombose signalés, 30 cas sur 5 millions de personnes vaccinées. Ce sera donc jeudi. Le lien pour l'instant n'est pas formellement établi et le ministre de la Santé, Olivier Véran, se veut rassurant.
Je fais partie de ces Français qui ont reçu une injection d'AstraZeneca. Et donc je le dis, il n'y a pas de démarche particulière à entamer, les gens ne sont pas en danger parce qu'ils auraient été vaccinés par AstraZeneca. Je souhaite ardemment que nous puissions reprendre le plus vite et le plus tôt possible la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca.
Olivier Véran, au micro RTL de Nerissa et Manim. Il y a quand même donc ce doute d'un côté et de l'autre, l'apparition d'un nouveau variant breton cette fois. Un cluster a été repéré à l'hôpital de Lannion, 79 cas, dont 8 avec ce variant qui échappe au test PCR, Virginie Garin.
Oui, certains malades qui avaient des symptômes ont eu jusqu'à 4 tests PCR négatifs de suite. Donc, avec ce variant, la charge virale dans la paroi nasale serait très faible et les tests classiques ont du mal à le détecter, d'où cette alerte du ministère de la Santé qui a placé hier soir sous surveillance la région de Lannion, Saint-Brieuc, Guingamp, Morlaix. Alors, ce variant est-il plus dangereux? Stéphane Mullier, le directeur de l'Agence régionale de santé de Bretagne, vient de rassurer prudemment lors d'une conférence de presse. Il est au micro de Nicolas Bobby.
À ce stade, et je le dis avec grande prudence, les premières analyses indiquent que ce nouveau variant ne permet ni de conclure à une gravité plus importante, ni de conclure à une transmissibilité accrue de ce virus. Mais les études vont se poursuivre pour pouvoir travailler et préciser les choses, notamment du point de vue épidémio, et donc voir par rapport au classement de ce variant, quelles sont les suites.
Alors, pour l'instant, ce variant n'est pas classé parmi les variants préoccupants, mais par précaution. Donc, surveillance accrue dans la région et dans toute la France, hein, si des patients ont séjourné dans les Côtes d'Armor. Et le préfet vient de déclarer l'obligation du port du masque dans tout le département des Côtes d'Armor.
Et pour bien comprendre, nous sommes avec le professeur Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique. Bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous découvert ce variant breton ?
En fait, on l'a découvert parce que sur place, donc ça se passe à Lannion, des biologistes et des médecins se sont rendus compte qu'un certain nombre de patients présentaient des signes cliniques très évocateurs d'une infection Covid. Et lorsqu'ils faisaient des prélèvements classiques en nasopharyngé, ils trouvaient des quantités de virus parfois très faibles ou parfois pas de virus. Et ces patients qui avaient des manifestations cliniques qui ressemblaient quand même beaucoup à une Covid, eh bien, développaient un petit peu plus tardivement, pour certains d'entre eux, une infection respiratoire basse. Et là, quand on faisait des prélèvements dans les voies aériennes inférieures, le virus sortait de façon très simple avec des quantités de virus importantes. Donc on avait le sentiment que finalement, le diagnostic par le prélèvement nasopharyngé posait une difficulté, comme si le virus se multipliait moins dans le nez et plus dans les poumons.
Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Non, parce qu'en fait, c'est un virus qui, aujourd'hui, ne présente aucun caractère de dangerosité. Il n'est pas plus sévère, il ne donne pas des infections plus longues, et il semble se diffuser de façon relativement restreinte, puisque aujourd'hui, à part les quelques cas, environ 80 cas qui ont été détectés sur cet hôpital, il y a eu un cas qui a été détecté en région parisienne avec un profil similaire, mais c'était 2 mois plus tôt. Et on se rend compte qu'on n'a probablement pas une diffusion très importante de ce virus.
Le problème, ça reste le variant anglais, c'est ça ?
Le problème reste le variant anglais, qui aujourd'hui, effectivement, représente probablement plus des 2/3 de l'ensemble des infections en France, avec le fait qu'il est plus transmissible, le fait qu'il donne potentiellement des formes un petit peu plus graves. Et donc, quand on est sur une circulation intense du virus et que ce virus qui se transmet mieux est de plus en plus présent, eh bien, ça complique bien évidemment la gestion.
Venons-en à la suspension du vaccin AstraZeneca. Même si elle ne dure que quelques jours, au fond, c'est un peu ce qui pouvait arriver de pire, c'est-à-dire que le doute s'installe.
Je crois qu'il faut bien comprendre que sur ce sujet-là, on n'est pas en train de dire que le vaccin ne marche pas, on n'est pas en train de dire que le vaccin est dangereux, on est en train de dire qu'il faut qu'on analyse scientifiquement ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose qui doit faire remettre en cause ou est-ce que c'est simplement une surveillance très étroite parce qu'il faut que finalement la science donne la solution et explique ce qui se passe. C'est ça qui est important.
La pause était nécessaire ?
Écoutez, la pause, en tout cas, elle a été décidée. Ce qui est très important, c'est de comprendre le signal et de regarder ce qu'il signifie. Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que ça n'en est pas un ? Et admettre que la réponse, à un moment donné, elle va nous amener à soit ne pas changer, soit changer. Mais ça, de nouveau, c'est la science qui nous le dira.
Ça, c'est toute l'histoire du bénéfice-risque avec les vaccins. Une dernière question. Emmanuel Macron l'a finalement reconnu hier. Le maître du temps, c'est le virus, a-t-il dit. C'est un aveu d'impuissance ?
Non, c'est juste un constat. C'est-à-dire que quand on est dans une dimension pandémique, depuis le début, c'est le virus qui finalement impose en quelque sorte le rythme, malheureusement. Une pandémie, elle a des temps et on ne peut pas arrêter une pandémie jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout le monde ne présente pas une immunité qui permet d'éviter ces infections. Et cette immunité, elle est à la fois post-infectieuse et post-vaccinale.
Et cette immunité, vous la voyez arriver quand pour nous en France ?
Si vous m'entendez bien, moi je pense qu'à partir du moment où on aura franchi le cap du mois de mars-avril, on devrait pouvoir rentrer dans des temps qui seront un petit peu plus agréables. Et si on combine ça avec une possibilité de vaccination et d'immunisation, avec une adhésion que l'on voit sur la vaccination, eh bien, ça va permettre collectivement de sortir de ce temps.
Donc, vous nous annoncez quand même la fin du tunnel assez rapidement. Merci, professeur Lina. Merci pour votre optimisme. Merci, à bientôt. Peut-on encore échapper à un confinement en région parisienne ? Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Conseil scientifique. On en parle dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi avec Christelle Robière.
Le maître du temps, c'est le virus. Malheureusement, cette confession d'Emmanuel Macron hier, au moment même où il expliquait qu'il allait falloir prendre dans les jours qui viennent de nouvelles décisions, montre à quel point sa stratégie d'éviter à tout prix le confinement est de plus en plus difficile à tenir. Benjamin Sandouche.
Oui, à moins de recourir à la méthode Coué, hein, Christelle, compliqué pour le chef de l'État de maintenir le statu quo. D'ailleurs, ça cogite fort en ce moment même à l'Élysée sur les scénarios envisageables. À ce stade, ce qui tient la route, ce n'est pas un confinement national, hein, mais des restrictions territoriales, notamment pour l'Île-de-France, le Grand Est et les Hauts-de-France. Et toujours, selon une source bien informée, comme on dit au sommet de l'État, un confinement le week-end ne serait pas suffisant. Alors, inutile de vous dire qu'aucun ministre, aucun conseiller n'ose s'avancer sur le verdict final, hein, échaudé qu'ils ont été fin janvier quand Emmanuel Macron a décidé de ne pas reconfiner. Le président aura donc le dernier mot. Et par rapport à il y a un mois et demi, il doit compter, le président, avec une saturation des hôpitaux, on l'a dit, des déprogrammations en cascade et surtout, dorénavant, la vaccination qui bat de l'aile avec la polémique AstraZeneca. D'ailleurs, reconnaît un ministre ce matin, ce sont les incertitudes sur le rythme de vaccination qui pourraient pousser le président à changer de braquet. Et avant un nouveau conseil de défense demain matin, Emmanuel Macron reçoit cet après-midi, selon nos informations, le conseil scientifique. Conseil scientifique qui, dans son dernier avis, eh bien, préconise à nouveau des confinements, certes ciblés, régionalisés, mais tout de même des confinements.
Merci Benjamin. En tout cas, les Français ont mieux géré leur sommeil pendant le deuxième confinement qu'il y a un an. Ils se sont couchés moins tard. D'après une enquête Opinionway pour l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, le temps de sommeil a été peu affecté, mais tout de même 45% des Français ont subi des troubles, des insomnies. Pour faire face à la crise sociale, le gouvernement beurre les tartines des enfants. Le dispositif des petits déjeuners gratuits à l'école va bénéficier d'un budget de 40 millions d'euros par an, au lieu des 12 millions attribués jusqu'à présent. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et Olivier Véran se sont rendus ce matin dans une école de Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, qui nourrit déjà les enfants le matin, Nerissa Imani.
Oui, deux fois par semaine, depuis septembre dernier, dans cette école en réseau prioritaire, les élèves découvrent le petit déjeuner sur leur bureau.
Qui veut prendre sa brique de lait et son fruit ?
Oui. Une poire et une brique de lait, un moment de découverte, mais aussi de pédagogie partagée aujourd'hui avec le ministre de l'Éducation nationale.
Par exemple, vous arrivez à lire ce qui est sur la boîte de lait ?
Avec 10 vitamines et du phosphore.
Deux élèves sur 13 ne déjeunent pas tous les matins dans cette classe. C'est le cas de Gary et d'Imran. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit déjeuner ? Est-ce que c'est important pour vous ?
Ça sert à bien grandir et ça sert à avoir les os durs.
C'est pour grandir, avoir des vitamines D.
Leur enseignante Adeline a vu un effet positif sur la concentration.
C'est toujours ça de prix quoi, pour ces enfants-là. Et puis ils sont contents, ils découvrent les fruits. C'est vraiment un moment convivial le matin. Donc. Il manque des choses forcément. Mais c'est déjà bien.
Réservé jusqu'alors aux établissements en réseau prioritaire, ce dispositif va être étendu à d'autres secteurs défavorisés avec l'idée de tendre vers une distribution quotidienne à la rentrée prochaine.
Nerissa et Mani, les étudiants, eux, sont appelés à manifester par une dizaine de syndicats aujourd'hui dans toute la France. Ils réclament un plan d'urgence contre la précarité. Quant à l'économie, elle s'apprête à rebondir plus fort que prévu. La Banque de France vient de relever ses prévisions de croissance à 5,5% cette année, ce qui serait un record. record depuis 1973 et le premier choc pétrolier. Trois mois tout juste que Delphine Jubilard a disparu de son domicile à Cagnac-les-Mines, près d'Albi. L'infirmière de 33 ans, mère de deux enfants, est partie en pleine nuit, sous couvre-feu, promener ses chiens, d'après le témoignage de son mari. Depuis, pas de traces de la jeune femme. Où en est-on dans l'enquête, Patrick Hisson ?
Eh bien, en trois mois, le travail des enquêteurs a été considérable. D'abord, dans la maison de la famille Jubilard, où les techniques les plus sophistiquées de la police scientifique n'ont pas permis de découvrir une trace de ce qui aurait pu constituer une scène de crime. Les notes de carte bleue, les téléphones et l'activité sur les réseaux sociaux ont été épluchées. Plusieurs personnes ont été entendues, des contacts notamment qu'avait eu Delphine sur des sites de rencontres, là aussi sans résultat. À ce stade, toutes les hypothèses restent envisageables, sauf une que rejette catégoriquement Laurent Nakache-Arfi, l'avocat des frères et sœurs de Delphine. Il est au micro de Patrick Tegereau.
En aucun cas, pour eux, il n'est possible qu'elle laisse ses enfants seuls pour refaire sa vie ou autre chose. C'est inimaginable pour mes clients. Sa vie était centrée autour de ses enfants.
De son côté, le mari de Delphine, Cédric Jubilard, sait qu'il apparaît aux yeux de beaucoup comme le suspect numéro un. C'est ce qu'il me confiait quelques jours après la disparition. Mais ces accusations, qui reposent d'abord sur le contexte de séparation du couple, ne sont à ce jour appuyées par aucune preuve. À cet égard, il attend avec impatience, selon son avocat, d'être entendu le mois prochain par le juge d'instruction en tant que partie civile. Une audition qui pourrait être en tournant pour étayer ou balayer les soupçons qui pèsent sur Cédric Jubilard.
Patrick Hisson. Dans un instant, vous présente une nouvelle carte à puce, la carte d'identité.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
La carte d'identité change d'époque et passe au numérique. Une carte à puce avec des données biométriques de la taille d'une carte bancaire qui nous accompagnera à partir du mois d'août. Faites-nous les présentations, Guillaume Chiez.
Alors, en trois mots, petite et ultra sécurisée. Cette nouvelle carte d'identité aura la taille d'une carte bancaire, un fond bleu et dessus du classique, votre nom, votre adresse, votre photo en hologramme dont les couleurs changeront en fonction de la lumière. Et ça, c'est pas un gadget esthétique. Non, ce dispositif permettra de limiter au maximum la falsification du document. Mais ce qui la rend encore plus sécurisée, c'est la puce intégrée, exactement comme sur une carte bancaire. Dedans, on retrouve toutes vos informations personnelles, mais aussi deux empreintes digitales, un dispositif biométrique, exactement comme pour le passeport, qui la rend unique. Le ministère de l'Intérieur assure d'ailleurs que cette puce est inviolable. Alors, pour le moment, cette carte ne va être testée que dans le département de l'Oise, puis à partir de la fin du mois en Charente-Maritime et à La Réunion, avant une généralisation le 2 août.
Le climat va entrer dans la Constitution. L'Assemblée nationale doit valider la nouvelle version de l'article 1, précisant que la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. C'est la formule qui avait été retenue par le chef de l'État et qui fait tout de même l'objet de critiques, trop vagues pour certains, trop contraignantes pour d'autres.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et aujourd'hui, c'est un cold case historique. Nous partons à Bettencourt, dans les Vosges, où un jardinier, en donnant un coup de bêche, est tombé sur une plaque de soldat datant de 1925. Et il vient de retrouver sa famille, Samuel Goldschmidt.
Car après son coup de bêche providentiel la semaine dernière, Étienne Cladidier a nettoyé la plaque pour pouvoir initier des recherches en ligne.
Je l'ai fait passer sur Facebook. Et de là, j'ai eu énormément de partages, de gens qui m'ont appelé pour me donner des renseignements. Et hier soir, à 20h50, j'ai reçu un coup de téléphone à mon domicile de la belle-fille et du fils de Monsieur Dupré, Constant Jean-Baptiste. Ils habitent maintenant près de la frontière espagnole à Perpignan.
Constant Dupré est né dans le territoire de Belfort en 1905. Il a peut-être perdu ou laissé sa plaque dans la débâcle de 1940 car il a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort en 1985. Tous ces renseignements ont été collectés collectivement en 8 jours à peine.
Même si on est dans une époque qui est un peu anxiogène, ça fait tellement du bien de pouvoir ramener ces quelques souvenirs à ces personnes. Je pense que tout le monde est content d'y avoir participé. Quelque part, c'est un travail de groupe. Moi, je suis juste un intermédiaire.
Et si Étienne Cladidier a pris cela tellement à cœur, c'est qu'il cherche lui-même depuis des années des renseignements sur son oncle Germain, tué à la frontière tunisienne en 1957 pendant la guerre d'Algérie. L'appel est lancé.
Voilà, et vous venez de lancer l'enquête. Merci Samuel. Elle ne tresse pas des lauriers au César, c'est le moins qu'on puisse dire. Après la 46e cérémonie plus controversée que jamais, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, culture a taclé ce matin sur RTL ce qui ressemblait plus, selon elle, à une tribune politique.
Je suis la défenseure du monde de la culture. Et je me pose une seule question qui a d'ailleurs été posée à ce micro, en creux par Gérard Jugnot, dès le lendemain matin de la cérémonie. Est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français ? Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, le côté meeting politique de cette affaire, je pense, a nuit à l'image du cinéma français, alors que le cinéma français est massivement aidé. Dans aucun pays du monde, un État n'aide le cinéma français comme on le fait. 1,2 milliard d'aides en 2020 et nous continuons en 2021. Les Césars, c'est une vitrine pour vendre notre cinéma. Est-ce que vous voyez l'image que ça a donnée ? C'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail.
Alors, Roselyne Bachelot, interrogée par Alba Ventura ce matin sur RTL, je vous propose d'écouter la réponse de Corinne Maziero, justement, qui a été déguisée en peau d'âne et qui s'était dévêtie sur scène pour dénoncer la précarité des intermittents. Elle assume son geste.
Ce qui est dommage, c'est qu'elle aurait pu venir me le dire, puisqu'elle était dans la salle au début, semble-t-il, elle s'est brée. Donc si elle a des choses à dire, elle a dit en face déjà et d'une. Qu'est-ce qu'elle a proposé comme acte ? J'ai demandé aux camarades ce matin avant l'AG. Elle a rien proposé. Bon, alors, that's it, that's all. Si vous voulez que je me mette à poil, invitez-moi, je viendrai bien volontiers. C'est pas la première fois que je le fais, d'ailleurs. Et juste là-dessus, est-ce que ça a servi ? Moi, je reçois des messages du Brésil, des États-Unis, de Corée du Sud, de partout, qui parlent de ça. Alors, peut-être que juste montrer l'état de ruine d'un corps d'une femme de plus de 50 ans, actrice de cinéma, qui symbolise l'état de ruine de notre profession, ça a peut-être plus d'impact, malheureusement, que simple un très beau discours comme a pu le faire Jeanne Balibar, par exemple. Faire ce genre d'action, bah, y a un moment donné, c'est parce que les paroles, c'est bien beau, mais à un moment, il faut agir, voilà.
Corinne Maziero, micro RTL de Franck Hanson, elle était venue soutenir les intermittents au théâtre Sébastopol ce matin à Lille. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans 5 minutes. Pascal.
Mais, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est rigolo, c'est que Corinne Maziero, c'est une actrice de télévision.
Oui.
C'est pas une actrice de cinéma.
Ah si, aussi, elle a fait des films aussi, oui.
Ah, écoutez,
mais
ça
c'est vrai que Capitaine Marlowe est un tel succès que ça écrase un peu. Capitaine Marlowe est un succès extrêmement populaire
à la télévision, mais
oui.
Elle était là, c'était la cérémonie des Césars. Donc je me suis même...
Non, c'est aussi une actrice de cinéma.
Ah bon ? Mais elle a fait quoi comme film ?
Alors, là, tout de suite, je ne me souviens pas. Mais...
Elle a pas osé ?
Oui,
manifestement, ce n'est pas des films marquants. Parce que moi, je ne me souviens pas d'elle au cinéma. Mais,
bien.
Effectivement, c'est particulier quand même ce qu'elle a fait, disons-le. C'est pas... La grande classe, quand même, on peut le dire comme ça, non ? Emmanuel Macron a-t-il raison de suspendre par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca ? Ce sera une question. On reparlera évidemment du confinement. Est-ce que le confinement est inévitable, comme ça semble être le cas, comme on peut l'entendre ? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'Emmanuel Macron, qui est assez étonnante, hein, quand même, hein ? Et on parlera également de la chanson « Chaud cacao » d'Annie Cordier, est-elle raciste ? Quand j'entends la petite musique, je me dis que je suis en retard, qu'on pourra reparler des Césars. Je ne voudrais pas prendre la place de Peggy.
Ah non, pas du tout.
Dommage,
l'espace, plus exactement, la place...
Elle a plein de nuages dans son programme aujourd'hui.
C'est mais clair. Elle a froid, là, manifestement.
Oui,
parce qu'elle a mis
un peu froid dans le studio. Oui, j'ai mis l'écharpe.
Elle a mis une écharpe importante, quand même. Hein.
Importante, on sent que...
Importante, oui.
Alors, colorée.
Voilà. Très belle écharpe, d'ailleurs.
Merci,
ça
Pascal.
Ça va bien avec le gris du ciel. Oui, alors, on vous laisse travailler, quand même.
Oui, alors, le soleil, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a quelques trouées entre le sud-ouest et les Alpes du Nord, mais c'est surtout près de la Méditerranée qu'il y aura du soleil entre le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la Corse. Et beaucoup de vent également, jusqu'à 90 km/h en rafale, partout ailleurs sur les trois quarts nord du pays. Donc pas de soleil, beaucoup de nuages, un temps sec sur l'ouest et plus humide à l'est. Même sur un quart nord-est, on a quelques pluies, alors des pluies plus marquées sur la Champagne-Ardenne. Et puis de la neige également à basse altitude, dès 500 mètres hein, sur les massifs de l'est, 1200 mètres sur le massif central. Et attention au fort risque d'avalanche parce qu'il a pas mal neigé hier sur les Alpes du Nord. Les températures, elles sont stationnaires, un peu fraîches à l'est. 7 degrés à Besançon, 8 à Metz, 10 à Lille et Lyon, 12 à Limoges et Cherbourg, 14 degrés à Toulouse et Biarritz, 15 à Nantes comme à Bordeaux, 17 à Montpellier et Toulon.
Et demain ? Oui, Pascal, vous voulez dire quelque chose ? Non,
après
juste
Peggy.
Demain. Il y a du nouveau par l'ouest ?
Oui, exactement. Une belle amélioration avec le retour du soleil entre la Bretagne, la Normandie, le Poitou le matin. En gagnant la façade atlantique l'après-midi, il fera encore beau près de la Méditerranée, même si le ciel sera un peu plus voilé avec du vent et partout ailleurs. Encore beaucoup de nuages, quelques trouées l'après-midi, surtout un temps humide à l'est et sur les Pyrénées avec des averses, de la neige à basse altitude, voire en plaine sur le nord-est, le tout sous des températures encore stationnaires.
Merci Peggy. Pascal.
Je regardais la filmographie de Corinne Massier au cinéma et figurez-vous qu'en 2013, ça ne s'invente pas, elle a tourné un film Lulu, femme nue. De Solveig Anspach.
Solveig Anspach.
Vous connaissez ce film?
Oui, oui, oui.
Mais moi, je ne le
connaissais
pas.
Je connais Solveig Anspach surtout.
Eh bien, Lulu, elle a tourné dans Lulu, femme nue. Donc, c'est rigolo.
C'était prémonitoire, vous voulez dire.
Sans doute, oui.
Allez, dans la bonne humeur, le rappel des titres. Et puis, c'est à vous. Vous dialoguez avec Pascal au 32-10.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de suspendre par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca? C'est la question du jour. Nous sommes avec Paul. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Il a eu raison ou pas?
Décision stupide.
Eh bien, vous allez expliquer pourquoi. Christelle le rappelle.